Le deuxième était le second.
Transistor.
Le quatrième pouvoir, voilà une formule qui en jette pour désigner les médias, radio, télé, journaux, sites internet, réseaux sociaux et médias citoyens, et surtout pour souligner leur pouvoir d'influence dans nos sociétés saturées d'informations. Les médias, au lieu de guider la réflexion, de relayer l'information, de proposer des analyses laissant à chacun le choix d'y adhérer ou non, devient aux yeux de certains, alors je ne dirai pas qui et je laisserai le soin à mes invités de le faire s'ils le souhaitent, un directeur de conscience imposant une pensée unique à laquelle il serait difficile d'échapper. Pire, les médias, n'en déplaise à l'idéal de la séparation des pouvoirs, seraient tantôt dépendants, tantôt influents par rapport aux pouvoirs politiques, aux pouvoirs économiques. Bref, le petit monde médiatique tremperait dans des affaires pas très claires. Alors, est-il bien sérieux d'envisager de changer cette situation? Peut-on rêver d'un journalisme plus éthique et plus indépendant? Telles sont les grandes lignes du débat auquel ont accepté de participer les quatre chroniqueurs de la table ronde d'aujourd'hui, à commencer par Pauline, l'indéboulonnable chroniqueuse de cette émission, en master d'études germaniques, bref, étudiante en allemand. Bonjour Pauline.
Bonjour.
June, lui aussi habitué de l'émission, en master de mathématiques. Salut June.
Bonjour.
Ensuite Nils, master en histoire et militant au collectif Front de Gauche de l'ENS Lyon.
Bonjour.
Et enfin, un petit nouveau à qui je souhaite la bienvenue dans l'émission et dans l'équipe de Transistor, Dorian.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour, tu es en master d'histoire toi aussi. Alors merci à tous les quatre d'être présents aujourd'hui à cette table ronde. Et pour commencer, une question simple, n'y a-t-il pas, et une question d'actualité, n'y a-t-il pas à votre avis une renaissance, disons périodique, de ce fantasme de l'influence néfaste des médias sur les citoyens à chaque fois qu'arrive un grand enjeu politique, en l'occurrence ici l'élection présidentielle.
Bah, Pauline. Je dirais qu'en effet, quand il y a des grands enjeux comme ça, éminemment politiques, tels les élections présidentielles, on a de nouveau des sorties sur les médias sont-ils influencés ou au contraire influencent-ils. J'ai envie de dire que peut-être justement le fait qu'il y ait une nouvelle vitalité de ces questions à chaque occasion si importante, ça fait au contraire partie de la vitalité démocratique du pays et peut-être aussi que le fait que ce ne soit pas assez posé comme question à d'autres occasions est un problème, mais pas outre mesure, dirais-je.
Alors est-ce que les médias, paradoxalement, seraient trop présents dans une échéance, dans un débat comme celui des présidentielles, Nils?
Tout d'abord, je remercie Transistor d'avoir invité le collectif Front de Gauche à la radio, parce que le collectif Front de Gauche a voulu organiser, mercredi 25 janvier, justement, une réunion publique à l'ENS de Lyon. Rendez-vous était donné dans le Forum des Cartes, et le thème de la réunion, c'était le système médiatique. Or, cette réunion a été interdite par décision de la direction générale.
Effectivement.
Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de fantasme aujourd'hui. On est véritablement, les conditions matérielles de l'exercice du métier de journaliste font que le métier de journaliste, aujourd'hui, il n'y a pas d'indépendance des journalistes, la liberté de la presse est remise en cause.
June, pardon.
Oui, alors... Alors moi, je vais commencer par citer quelque chose dont j'ai déjà parlé ici. C'est le sondage qui a été paru dans Marianne
Mais attention,
en 2002,
je coupe et je te laisse continuer juste après. Je parlais bien de l'influence des médias sur les citoyens et pour l'instant, on ne parle pas des relations avec le politique. Hein.
Oui. Oui, donc le sondage qui est paru dans Marianne en 2002 qui montrait que 80% des journalistes votaient Jospin. Et quand on sait que voilà, Jospin il n'est pas passé au second tour, donc ça montre quand même un certain décalage entre l'opinion et la sensibilité des journalistes et puis l'ensemble de la population. Alors moi voilà, j'avance la couleur, moi je pense pas que ce soit un fantasme. Moi je pense que clairement les grands médias, après on va parler aussi des petits médias, petits journaux voilà, qui ont des... Voilà, mais les grands médias aujourd'hui, ils sont sociodémocrates. Je veux dire, ça c'est clair. Au sens large, si on oublie un petit peu les filiations des différentes familles politiques, du centre gauche au centre droit, voilà, c'est ce que j'appelle la sociodémocratie. Et puis quand on regarde les grands médias, France 2, TF1, iTélé, BFM pour les chaînes d'info, pour la presse écrite Libération, Le Monde et même le Figaro dans une certaine mesure, après les hebdomadaires, le Nouvel Obs, l'Express, bon voilà, c'est tout ça, c'est ils sont dans cette social-démocratie. Et puis moi j'aimerais citer trois exemples où quelque part il y avait une espèce d'unanimité, je veux dire que moi j'ai trouvé un peu gênante dans les médias, par exemple pour l'élection de 2008 aux États-Unis, les médias français, ils étaient tous à fond, ils cachaient pas leur admiration pour Obama, mais précisément parce qu'Obama, c'était un excellent représentant de cette social-démocratie. Un autre exemple un peu plus récent, c'était, et moi ça m'a vraiment mis mal à l'aise, c'était c'est sur Georges Fraîche. Moi j'ai pas une sympathie de sympathie particulière pour le personnage, mais tous les médias ont repris en boucle l'histoire avec les Harkis. Mais quand on regarde cette vidéo qui est sur internet, hein, qu'on peut la voir, c'était pas du tout aux Harkis.
Oui, c'est exactement l'inverse.
Qui,
oui.
qui disait que c'était des sous-hommes, c'était des locaux UMP qui étaient venus pour mettre un peu le bazar, et c'est à eux qu'ils disaient que nous. Voilà. Et tout le monde a repris ça sans vérifier. Et juste une dernière. Un dernier exemple, c'est voilà, très récemment, voilà, il y a un an, Révolution arabe, tous les médias occidentaux. En tout cas chez nous, tous les médias se sont dit allez, ça va être la liberté dans ces pays arabes. En fait, ils ont cru que ça allait être la social-démocratie dans les pays arabes. Quand on leur disait il y a des islamistes en embuscade, ils disaient mais non, pas du tout, là c'est ces jeunes blogueurs là, ils vont apporter la liberté dans leur pays. Bon, voilà. Donc je trouvais qu'il y avait souvent ce décalage.
On pourrait dire la même chose de la crise économique, puisque beaucoup d'observateurs disent qu'il y a eu aussi une espèce de pensée unique. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit dire, pensée unique, idéologie commune dans ces grands médias, Dorian?
Oui, je pense que cette question, je suis assez d'accord avec June, la question de l'unanimisme et d'une certaine unicité idéologique, en tout cas dans les médias, est posée, et même posée par certains politiques. On peut se rappeler de l'altercation célèbre entre Bayrou et Claire Chazal aux dernières élections présidentielles. Même certaines autres personnalités politiques comme Marine Le Pen ou même Mélenchon dénonçaient cette espèce de caste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, sans tomber dans une espèce de conspirationnisme, de complotisme, mais en tout cas une espèce de, oui, d'idéologie commune, de politiquement correcte en tout cas, qui s'insinue dans les consciences et qui... pour tous ceux qui essaieraient de dériver de cette ligne, seraient tout de suite recasés dans la case, je veux dire, dérapage, ou en tout cas sortie du politiquement correct, et tout de suite remise en cause.
Quitte à jouer sur les mots, est-ce que c'est du politiquement correct, ou dans la mesure où il y a aussi des critiques à l'égard des pouvoirs en place, peut-être pas assez marquées selon vous, du médiatiquement correct, Nils?
Moi je remercie ce que tu viens de dire, parce qu'en effet, le Front de Gauche pense qu'il y a un problème dans le système médiatique. Pour nous, les médias fabriquent l'uniformisation des idées, les médias véhiculent l'idéologie dominante, ils sont la seconde peau du système. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le débat qu'il y a eu sur la Constitution européenne en 2005. L'ensemble des médias, et également ce que tu appelais les sociodémocrates qui vont du centre-gauche jusqu'à la droite, étaient pour le oui. Et c'est le travail de terrain qui a été mené sur le terrain grâce à la confiance dans l'intelligence populaire qui a mené la victoire du non.
Quelqu'un veut réagir à ça?
Oui, enfin, d'un point de vue général, vous avez tous l'air de vous accorder. Alors du coup, je vais amener un peu de discordance. Désolée. Non, voilà. Enfin, je pense fondamentalement que l'idée selon laquelle il y aurait une idéologie commune à tous les médias ou presque est fausse. D'abord parce qu'il y a des orientations politiques très différentes selon les médias. Alors, sans parler de la télé, on va aller plutôt vers la presse écrite, qui est traditionnellement une presse plus, disons, analytique ou politique au sens noble du terme. On ne peut pas mettre sur le même plan l'Express, le Figaro ou Marianne. Alors là où on pourra peut-être en effet aller dans votre sens, c'est l'idée selon... Enfin, tu parlais du social-démocrate, je ne sais pas si le terme est forcément très, très approprié, mais je vois bien ce que tu veux dire. Mais en fait, pour moi, ça ne fait jamais que refléter ce qui est propre à la France traditionnelle, au système politique français. C'est une forme de bipartisme entre... traditionnellement,
à l'américaine, oui.
Voilà, entre la gauche et la droite. Entre
démocrate, conservateur,
et entre gauche, droite. Voilà, entre des partis de gouvernement, tout simplement.
Donc, il n'y aurait pas un courant, mais deux.
Ouais, il y aurait deux courants, mais disons que voilà, il y aurait un parti de gouvernement de gauche, un parti de gouvernement de droite, et après les autres voix qui seraient plus extrêmes ou sans forcément être extrémistes, qui représentent moins, disons, le peuple français, auraient du mal à s'imposer, ce qu'on peut regretter, évidemment. Ensuite, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est aussi l'idée selon laquelle les médias seraient là forcément pour relayer les aspirations du peuple et pour refléter finalement ce que pense véritablement le le peuple. Et donc, par exemple, on pourrait regretter qu'il n'ait pas plus encensé le non contre, enfin, au référendum sur le traité européen contre le oui. Et en réalité, on pourrait très bien dire que tout simplement, dans les médias, il y a des gens et que ces gens ont des avis, ont des opinions, ont des convictions et qu'elles les portent à travers, bah, justement, les médias qui sont des médiums. Et après, que ça ne représente pas à forte. Enfin, à proprement parler, la majorité de ce que pense le peuple, oui, ça peut être regrettable, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui ne se comprend pas.
Mais alors, justement, tu parles de ces gens qui portent des idées dans les médias. On peut faire référence à un film qui était à l'affiche et projeté à Lyon jusqu'à hier, mardi, Les Nouveaux Chiens de Garde, dans lequel on voyait des chroniqueurs omniprésents, toujours les mêmes, dans des médias différents. Alors, est-ce que cette pensée unique que tu viens de relativiser ne serait pas aussi due au fait qu'il y a un petit cercle d'analystes qui n'est pas assez large? Là, je donne la parole à Dorian.
Bon, je n'ai pas vu ce film documentaire, mais oui, je suis assez d'accord. On retrouve souvent, même très souvent, dans les médias télévisuels notamment, les mêmes chroniqueurs, les mêmes experts, ce que Emerson appelle la nouvelle religion des experts, qui s'imposent et qui dictent des conduites, des politiques à adopter, et contre lesquelles on ne peut pas vraiment débattre parce que eux possèdent la vérité, la connaissance, ce sont les experts justement, une forme de technocratie qui se lie à la politique et qui passe par les médias, qui s'influencent mutuellement et qui justement fonctionnent de pair, je pense.
Alors deux réactions, June d'abord.
Oui, alors moi je voudrais réagir justement sur le mot technocratie que tu as prononcé. Et puis Pauline, tu parlais de... j'entends très bien ce que tu veux dire. C'est tout le monde ne peut pas s'exprimer.
Le micro, John.
Pardon. Tout le monde ne peut pas s'exprimer, en connaissance de cause sur tous les sujets. C'est ça que tu veux dire, et qu'on a besoin d'une certaine expertise, voilà, pour parler des problèmes économiques et éventuellement des choses scientifiques. Voilà. Non, mais j'entends tout à fait. Mais moi, ce que je pense, c'est que la pensée unique a mis sur la touche des gens qui intellectuellement étaient irréprochables. On peut penser à des économistes comme Maurice Allais, qui depuis les années 70-80 ont dénoncé le néolibéralisme et qui ont aussi et qui étaient contre Maastricht et a fortiori contre Lisbonne, enfin quoi qu'il ait, il est décédé. Bon. Et ces gens-là qui avaient des parcours académiques irréprochables, intellectuellement au-dessus de tout soupçon, ils ont été mis sur la touche. On les invitait pas à s'exprimer dans les médias. Donc, je pense que ça va au-delà simplement de la question. Il faut être expert pour s'exprimer. Je suis tout à fait d'accord.
Mills,
Pauline. Tu as prononcé un mot, c'est extrême gauche. Donc, je tiens à préciser à tous les auditeurs que le Front de Gauche, c'est pas l'extrême gauche. C'est la gauche qui
j'ai
prône.
J'ai pas dit extrême gauche, j'ai dit
oui.
Extrême
non,
extrémiste.
Ne lançons pas dans un débat sur ce qu'est le front de gauche.
Justement.
Ce qu'est l'extrême gauche.
Je précise, c'est la gauche, la radicalité concrète. Mais ce mot, justement, extrême gauche, il est véhiculé par les médias pour disqualifier ceux qui pensent hors des clous, c'est des marginaux. Donc finalement, ils sont dangereux. Voilà.
Alors est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose de l'extrême droite et de ce mot que récuse en permanence Marine Le Pen?
Bah, le problème, c'est que l'extrême droite, c'est quand même le diable de confort qui est. Qui est animé par le PS quand ils n'ont plus rien à dire sur la crise. C'est aussi ça. Quand Libération titre 30% des Français voteraient Marine Le Pen, c'est faux. C'est un sondage qui est parfaitement truqué. Ils ont compté ceux qui voteraient probablement pas pour Marine Le Pen. Donc voilà, c'est le problème de Libération.
D'accord, alors je laisse continuer.
Et après, je voulais revenir sur les nouveaux chiens de garde. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller le voir. Tu disais que ça jouait jusqu'à mardi, j'ai dû le voir lundi soir, j'ai eu beaucoup de chance. Et ce qui est marrant avec ce film, c'est que finalement, la distribution du film, elle est quand même un peu spéciale. C'est difficile d'aller voir au MK2, à Gaumont, à l'UGC. Il faut aller au CNP. Il y a combien ? Il y a deux cinémas à Lyon qui le passent, un seul même. Sinon, il faut aller à Givors, il faut aller à Saint-Etienne. C'est quand même un peu bizarre, non ?
Dorian, pas d'accord.
Oui, enfin, pour cette idée qu'on retrouverait tout le temps les mêmes chroniqueurs ou les mêmes experts, on peut prendre pour exemple la récente interview de Nicolas Sarkozy pour les présidentielles. On avait d'un côté deux journalistes politiques et qu'on voit très souvent. C'était Claire Chazal et celui qui...
Laurent Delahousse aussi. Non, il n'était pas à la dernière Yves Calvi.
Yves Calvi, moi, je parle de la précédente. Et deux intervenants économistes, François Longlet de BFN Business et un autre dont le nom m'échappe, et qui pensaient exactement la même chose sur la crise de l'euro,
Jean-Marc Sylvestre,
sur les marchés financiers, qui avaient la même pensée, la même idée, et qui faisaient semblant, selon moi, de s'opposer à ce que proposerait Nicolas Sarkozy, alors que c'est totalement faux. Et des gens tels que, enfin, je pense à Emmanuel Todd ou Jacques Sapir, qu'on voit un peu plus venir maintenant sur les plateaux, je pense à Ce Soir ou Jamais, mais qui ne sont jamais en prime time et qui ne sont jamais là pour intervenir dans des débats sérieux, économiques, et qui ont des alternatives à proposer. Ce sont toujours les mêmes qui proposent le même système et qui l'imposent, chemin faisant, aux consciences. Car on fait comprendre, entre guillemets, à l'auditeur et aux téléspectateurs qu'on ne peut pas sortir du système économique et financier dans lequel on est, et qu'il faut adopter les mesures des experts, car eux savent ce qui est le mieux pour eux.
Alors on en arrive, puisque tu as évoqué ce débat présidentiel au lien avec le pouvoir politique, évidemment, et est-ce que ce contrôle des politiques de leur communication n'est pas quelque part nécessaire pour les politiques et aussi pour les médias qui ont besoin d'avoir des invités?
Oui, je vais essayer de répondre à ça en même temps. Mais non, ce que je tenais à dire, c'est que depuis tout à l'heure, on a l'air de dire qu'en gros, on manipule le public à travers la mise en place de réseaux groupusculaires, de personnes qui ont la même pensée ou presque. En même temps, est-ce que ce n'est pas juger le public et les gens qui regardent le peuple d'une manière un petit peu condescendante, comme si les gens qui regardent la télé ou écoutent la radio ou lisent la presse n'étaient pas capables eux-mêmes de voir qu'il y a problème et qu'il y a risque de pensée unique. Je veux bien en effet que ce soit problématique qu'on mette en place ainsi un système de pensée unique, puisque vous le nommez comme tel, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. En même temps, je pense que c'est vraiment ne pas faire confiance aux téléspectateurs ou aux lecteurs que d'aller toujours dans ce sens.
Alors, est-ce que le public a vraiment les moyens de faire la part des choses
là-dessus, là, pour te répondre clairement, non, je suis loin de penser que les gens sont bêtes et reçoivent cette idéologie sans la remettre en cause. Je pense au contraire qu'ils s'en détournent de plus en plus. On voit les chiffres de la presse papier, le nombre d'abonnements recule, et je pense que les gens, justement, se détournent de cette information qu'on leur vend pour la chercher eux-mêmes, par eux-mêmes sur Internet, par divers moyens qui explosent, en tout cas. Enfin, on peut penser, je sais pas, à Wikileaks, ce genre de sites qui vont balancer de l'info et que les gens vont chercher eux-mêmes, qu'ils ne reçoivent pas pour dû.
Est-ce que tout le monde remet en cause l'information en tant que telle et ne reçoit pas simplement les images des grands médias, Nils?
Moi, j'irais plutôt dans ce sens, Thibaut, parce que moi, je suis pas sûr que tout le monde ait les clés pour une pensée critique.
Quand depuis
qu'on est né, depuis qu'on lit les médias, on nous assomme du matin au soir. Quand du matin au soir, vous êtes dans la rue, que vous voyez des journaux du groupe La Quart d'Heure, Bouygues, Bolloré, machin et j'en passe, c'est difficile. Quand toute la journée, on vous dit austérité, 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 vote utile, vote utile, vote utile, TVA sociale, TVA sociale, et bien au bout d'un moment, on craque, c'est évident.
Alors Nils, est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans sa stratégie de communication, le candidat dont tu te fais le porte-voix ici a décidé d'accorder une interview à un grand journal, voici, qui est ouvert à un grand public, et peut-être justement ce public qui ne sait pas faire la part des choses.
Je pense que quand on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on représente le Front de Gauche, on a une opportunité de s'exprimer, on s'exprime, ça paraît évident.
Il y a une certaine hypocrisie quand même, parce que Jean-Luc Mélenchon était le premier à s'en prendre aux journalistes, plusieurs altercations célèbres qu'on... Même avec deux jeunes qui débutent, deux jeunes pigistes, on se rappelle tous de la vidéo qui a circulé largement sur le net. Enfin, la dénonciation du système politico-médiatique, Jean-Luc Mélenchon il y a beaucoup donné, et là, accorder une interview à Voici, je trouve ça un peu l'hypocrite quand même.
J'ai pris l'exemple de Jean-Luc Mélenchon parce que justement tu sais, on va dire, le candidat que tu représentes ici, mais on pourrait multiplier les exemples de ces hommes politiques qui accordent des interviews à de grands journaux. Est-ce que c'est pas, oui, une forme... je sais pas, d'hypocrisie ou de ne pas être en phase avec ses idées par rapport aux médias?
Donc, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Dorian. Tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon, il faut savoir que dans sa jeunesse, il a d'abord été pigiste. Hein. Donc, il sait ce que c'est, il sait de quoi il parle. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses amis, pendant environ une quinzaine d'années, ils ont écrit des articles, ils ont écrit des livres pour dénoncer le système médiatique, pour dire exactement ce qu'on dit en ce moment à la radio et avoir le débat qu'on a. Le problème, c'est que tout ce qu'ils disent, c'est jamais passé à la radio, parce que c'est très difficile d'avoir un débat, de faire la critique des médias dans les médias eux-mêmes. Donc, on a compris le système médiatique, on a décidé de l'utiliser. Donc, on a décidé de rentrer dedans. En fait, le système actuel, il repose sur trois piliers. Premièrement, le divertissement. Deuxièmement, la publicité. Troisièmement, les médias. Le divertissement, je veux dire, si on le critique, on nous dit « t'es pas drôle, t'as pas d'humour ». Donc, on a décidé, on regarde la pub. La publicité, on nous dit, t'achètes pas. Bon, ben d'accord. Donc, on tape sur les médias. Donc on a décidé, comme ça, d'avoir une position un peu critique, un peu agressive, ouais, tu le dis, pourquoi pas. Et finalement, on s'est créé un espace médiatique. Mais ça, c'est dû à un rapport de force. Ça ne sort pas de nulle part. Gala, il y a 3 ans, ils n'auraient jamais invité Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà. Et maintenant qu'on a un espace médiatique, on peut exprimer nos idées, on peut parler de notre programme, l'humain d'abord, on peut parler du partage des richesses, de gouverner face aux banques, de la planification écologique et d'un tas intéressantes. Et ça permet justement d'élever le débat politique.
Mais on l'entend, ça, quand même, cette voix de Jean-Luc Mélenchon.
Bah évidemment qu'on l'entend, parce que c'est un rapport de force qu'on a engagé.
Où l'entend-on dans Voici? Je pense que ça décrédibilise un peu le discours.
Alors, June.
Alors, moi, je vais embrayer un peu plus sur ta question, les liens entre les politiques et les journalistes. Alors, enfin, moi, je pense que. Alors, il peut y avoir parfois quelques complicités, quelques connivences entre les politiques et les journalistes, mais je pense que ça, c'est nécessaire et même. C'est nécessaire parce que c'est souvent quand les politiques se confient dans des off, enfin plus ou moins des pseudo-off, et voilà des informations que les journalistes gardent parfois un certain temps avant d'en sortir quelques-unes, pas toutes parce que sinon on leur dit plus rien. Cet aspect-là du journalisme permet, je pense, d'avoir un peu plus l'envers du décor. Donc, moi je pense qu'on ne peut pas imaginer un journalisme efficace si les politiques et les journalistes finalement se rencontrent jamais, se parlent jamais.
Donc, pas connivence, mais contact. Donc la réponse de Niels
Par rapport à Dorian, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, l'information, c'est une marchandise. Tout simplement, c'est une marchandise comme une autre, qu'on produit, qu'on fait circuler et qu'on transmet. Un journaliste, enfin plutôt...
C'est une vision libérale du journalisme, ça, excuse-moi.
Bah, c'est le journalisme qui...
Marchandisation de l'information.
Qui est ancré dans le système capitaliste, tout simplement. Un journaliste, qu'est-ce qui se fait? Des médias, la télé, la radio, ils doivent faire de l'audimat et des parts de marché. Mélenchon, c'est un bon client. Voilà, tout simplement.
Oui, donc il en tire profit. Et le fait même de critiquer ce système-là, il est jugé parti, du coup. C'est ça que je trouve un peu hypocrite.
Justement, c'est ça le coup de force du Front Gauche. C'est de critiquer
quelque chose dont on profite.
Évidemment.
Pauline.
Oui, non, moi, je voudrais revenir sur 2 points. D'abord, pour répondre à Niels, tu disais de manière très intéressante tout à l'heure que finalement, quand on était né dans un tel monde et que depuis petit, on était assommé par les publicités, Lagardère et autres lobbies et grands groupes, on n'était pas apte forcément à juger des partis pris dans les médias, des lignes idéologiques communes, sinon uniques, qu'on n'avait pas les clés, tu disais. Et donc, en gros, et alors même que juste avant, vous mentionnez ces problèmes d'experts qui s'érigent en connaisseurs de tout, en monsieur et madame je sais tout, capables d'enseigner à un tel ou un tel comment penser. Et en même temps, vous vous positionnez en disant « eux ont tort, mais nous on a raison, vous n'êtes pas capables de lire, parce que depuis petit vous baignez dans ça, donc nous, les écoutez pas eux ». Mais c'est nous les experts.
Moi, je dis la même chose.
Moi, je fais simplement confiance à l'intelligence
populaire. Je ne critique aucun fond. Enfin, je mets juste en cause la manière.
Non, mais les histoires des experts, c'est juste un constat. Alain Minc, Catali, il passe en 5 ans 714 fois à la radio. Mm-hmm. Leur don généreux, il passe combien de fois? 19 fois.
C'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'il n'y a pas d'alternative ni de débat. Vu que, selon moi, ils pensent presque tous la même chose sur les grandes questions, je parle économiques et financières et sociales qui sont liées, vu qu'ils pensent tous exactement la même chose, il n'y a pas de débat possible ni de contre-proposition. Ces experts, ces économistes avancent des propositions, des politiques pour sauver ce qu'ils considèrent comme un système qui, selon eux, même s'il ne marche pas, doit continuer à fonctionner et devrait... Je ne dis pas que monsieur tout le monde peut leur répondre ni leur apporter le débat ou autre chose, mais il y a quand même certains autres experts et économistes qui ne sont pas, eux, invités et qui ne peuvent pas apporter d'autres solutions.
Alors, je vous livre une idée, je vous demande de réagir. Est-ce que vous ne pensez pas que ces chroniqueurs, finalement, dont le rôle serait normalement de faire de la pédagogie, finissent par débattre entre eux, débattre du débat et ne pas finalement accomplir leur rôle premier qui serait celui d'expliquer à leurs auditeurs, aux téléspectateurs les enjeux des grands problèmes dont devraient normalement débattre les hommes politiques. John.
Non mais j'ai souvent l'impression, bon, si on prend l'exemple de l'économie, si on prend les deux chaînes d'information continue ITL et BFM de la TNT, donc on les a cités, c'est Jean-Marc Sylvestre sur une chaîne et
François Langlais.
Voilà.
François Langlais sur BFM Business.
Sur l'autre. Et ces personnes-là, alors ils expliquent certains mécanismes, ils détaillent certaines choses, mais pour ce qui est de l'interprétation des choses et et des vrais choix de fond, je veux dire, c'est une messe, quoi. C'est une messe ultra-libérale. Donc oui, ils sont entre eux à discuter éventuellement des petits détails, mais toujours pour aller dans le sens à eux, quoi.
Le piège, c'est qu'on nous fait croire qu'ils sont totalement dépourvus d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'exposer des mécanismes, des structures économiques, sans prendre parti, alors que c'est totalement faux. Je veux dire, il n'y a, enfin, moi je pense comme Nietzsche, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations.
Comme Nietzsche ou comme Niels.
Attention. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, c'est-à-dire en exposant certains systèmes, en dévoilant certaines structures, ils prennent parti et... Il n'y a pas de neutralité.
Ce que je trouve assez intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on était parti au début sur les liens entre le politique et le médiatique, et finalement vous en venez à ne parler que de la partie médiatique, comme si finalement la responsabilité incombait à ces journalistes et pas au reste.
Bah alors moi je vais revenir sur la social-démocratie. C'est bien résumé dans l'article Wikipédia, bon, et en particulier dans la social-démocratie, à cette idée du fédéralisme européen. C'est-à-dire une baisse du pouvoir, enfin de ce que peuvent les politiques des différents États.
Abandon de la souveraineté, oui.
Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Et donc finalement, c'est cette idéologie social-démocrate. Voilà, bon, je suis d'accord que peut-être qu'on peut discuter sur la dénomination. En fait, c'est cette
pro-européenne.
C'est cette idéologie-là qui finalement fait la loi, et de plus en plus, les politiques ne peuvent pas grand-chose. Et on voit bien que je crois que c'était sous Pompidou. Pompidou, il organisait des réunions, il convoquait dans son bureau les grands acteurs économiques des grandes entreprises de l'époque.
De Gaulle faisait ça aussi.
Oui, pour leur dire, voilà, on va faire comme ça, la politique économique, la politique industrielle, ça se fera comme ça. Aujourd'hui, je veux dire, c'est d'abord l'idéologie social-démocrate, qui est aussi libérale, en fait, par le biais de l'Europe, c'est elle qui contrôle et c'est les médias qui communiquent. Voilà, donc
les technocrates décident et les médias disent.
Ouais.
Enfin, je crois qu'on oublie quand même que toutes ces personnes, les journalistes, les experts, ils ont plusieurs casquettes. Enfin, je passe d'abord sur les mariages d'Audrey Pulvar, Montebourg, DSK, Sinclair et compagnie. C'est déjà...
Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande.
Oui, enfin, moi, je ne suis pas très féru là-dedans. Mais, premièrement, ils sont formés dans les mêmes écoles, quand même. Sciences Po, HEC, ENA, ils sortent des mêmes écoles. Tout ça, c'est les mêmes élites, à la base. Et ensuite... ces experts dont on parle, Jacques Attali, Alain Main, qui sont également administrateurs de grands groupes financiers, de grands groupes industriels, également. Il ne faut pas l'oublier non plus.
Donc on arrive à la connivence avec les groupes économiques, cette fois.
Oui, enfin je ferai juste une remarque. Si on parle déjà, il y a une différence entre connivence, amitié, complicité. La complicité suppose quand même un jugement à la fois moral, mais presque légal, et donc des problèmes vis-à-vis de la loi et de l'éthique. Quand on parle simplement de connivence ou d'amitié, déjà, on se situe plus sur un terrain personnel. Ensuite, c'est pareil, entre connivence et amitié, il n'y a pas non plus la même force des liens. Et tu disais qu'ils étaient faits dans les mêmes, enfin qu'ils étaient sortis. Des mêmes écoles, grandes écoles type ENS, ENA, Sciences Po, etc. Je suis d'accord. En même temps, est-ce que ça signifie pour autant qu'il y aura une forme d'adéquation entre leurs pensées, entre leurs positions? Est-ce que c'est parce qu'ils se tutoient ou qu'ils s'appellent par leur prénom qu'ils sont d'accord? Nous-mêmes à cette table, bon, on est jeunes, on se tutoie, mais supposons qu'on se rencontre dans 20 ans, on sera à différents postes, peut-être plus ou moins importants, pas forcément sur les mêmes positions ni dans les mêmes mouvances politiques. Est-ce que pour autant, on cessera de tutoyer si pendant 20 ans on s'est plus ou moins connu, fût-ce de loin. Et tout ça parce qu'on est dans la même école. Alors, enfin, je pense qu'il faut aussi relativiser l'appellation de connivence.
Et puis, est-ce qu'on peut, j'ajoute de l'eau à ton moulin, peut-on faire autrement dans la mesure où les modèles économiques de la presse, et notamment de la presse papier, sont assez fragiles et dépendent finalement de ces grands groupes d'intérêts économiques? Et c'est un mal, mais peut-être un mal pour un bien.
Ah oui, sinon, on distribue des tracts dans la rue. Ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de grands groupes, et enfin, faut pas non plus être hypocrite. Le journaliste, le pigiste, on peut pas dire qu'il est influencé par Bernard Arnault, Lagardère ou Bouygues quand il écrit son article. Il y a des grandes lignes directrices idéologiques à chaque rédaction, c'est le cas, Libération, Figaro, Le Canard Enchaîné, certes, mais on peut pas dire non plus que les journalistes doivent se couper du monde politique, ne doivent plus dîner ou manger avec les politiques, sinon ils ne pêchent plus rien, ils ne pêchent plus aucune information.
Alors la réaction d'un distributeur de tracts, précisément, Niels.
Bah, les tracts, il faut les payer, hein, je te rappelle. Hein,
et puis, c'est pas tout à fait la même chose, c'est des tracts politiques en l'occurrence.
Ensuite, je veux dire que tu parlais des pigistes. Le grand problème dans le journalisme actuellement, c'est la précarité des journalistes. 50% des titulaires d'une carte de presse, ils sont précaires. Ça veut dire que si tu sors de la ligne éditoriale, bah, t'es viré ou t'es pas renouvelé, tout simplement. Et par rapport à ce que disait Pauline également, tu as parlé de. Tu faisais un débat, une distinction entre connivence, amitié, etc. Faut pas oublier non plus que ceux dont on parle, ils sont issus de la même classe sociale. Il y a combien. Quel est le pourcentage d'ouvriers qui passent à la télévision ? 2%.
Quel est le pourcentage d'ouvriers à l'Assemblée nationale ? C'est exactement, bah, c'est exactement le même problème. Débat. Hein. C'est voilà. La représentativité des d'accord. journalistes et des politiques.
Rien à voir, mais moi j'aimerais bien connaître le pourcentage d'ouvriers au front de gauche.
Oui, pareil.
Je
ne
suis pas sûr qu'il soit énorme.
Les adhérents, c'est la plupart, c'est des étudiants, des enseignants. Enfin. Faut pas non plus voler la face. Mais oui, il y a un problème de représentativité.
Le pourcentage d'ouvriers dans la population française.
Oui, 17%.
Voilà. Ce qui signifie qu'il y en a 83% à représenter.
Peut-être, et là je ne m'engage pas dans ce que je vais dire, peut-être que les journalistes en parlent de ces gens-là.
Comment ? Oui, oui, bah, en fait, je me rappelle, il y a une interview, je me rappelle l'interview de Pujadas qui interviewe Xavier Mathieu. Il l'interview pour lui faire rentrer la tête. Oui, donc, mais disons contexte, Xavier Mathieu, c'est représentant syndical de Continental Clairoy. En fait, il y a eu un vaste mouvement social à Continental Clairoy qui a abouti à des protestations, à l'arrêt du travail et également l'occupation des locaux de la préfecture.
Saccage quand même.
Saccage, ce sont les paroles de Pujadas. Donc lui, Pujadas, il l'interviewe à la télévision, il lui demande de remettre la tête dans le seau, il lui demande, est-ce que vous appelez au calme ? Mais non, on n'appelle pas au calme, la situation n'est pas terminée, tout simplement.
Oui, là, tu reprends la position de Mélenchon dans la fameuse vidéo de Pierre Karl, où il lui montre cette interview en direct, et où on voit clairement, c'est vrai, je suis d'accord, Pujadas qui condamne cette action syndicale et cette espèce de colère spontanée des ouvriers pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à faire ça malgré leurs revendications, malgré tous les soucis ou toute la peine qu'ils peuvent endurer et subir. Ils n'ont pas à saccager. Il prend clairement parti, je suis d'accord, mais après...
Enfin, je peux parler de ça aussi d'Audrey Pulvar, parce que je me rappelle qu'il y avait un mouvement social dans le monde de l'édition et de la presse. Elle a interviewé un syndicaliste du monde de la presse. Et elle lui expliquait, donc, quand ils étaient rentrés dans une usine de production de journaux, et ils avaient, bon, forcément, ils étaient habillés en noir, c'était leur uniforme. Et ensuite, ils avaient pris quelques piles de journaux, ils avaient fait tomber par terre. Ouh là là, grand mal. Et là, donc, Audrey Pulvar demande aux journalistes, alors, vous êtes rentrés cagoulés, en noir, vous avez déchiré la presse, crime odieux.
Voilà, on peut pas faire quand même, on peut pas faire l'éloge de ce type de mesures extrêmes, enfin, de revendications extrêmes. On ne peut pas non plus c'est magnifique, ils ont raison de faire ça, ils doivent brûler les sièges sociaux d'entreprise.
La violence, la première violence, en fait, elle émane du capital, hein, faut pas l'oublier.
Je suis absolument d'accord avec ça.
Une colère
qui est
légitime.
Il y a une violence physique qu'on ne peut pas non plus louer.
On sort du sujet.
Attention, tu vas reprocher à Audrey Pulvar de dénoncer.
Sinon, elle prend parti, elle aussi. Elle prend parti pour les ouvriers contre le grand patronat. Elle n'est pas dans sa neutralité si elle fait l'éloge de ce type d'action.
Alors, on approche de la fin de l'émission. Je voulais donc... vous interrogez sur un thème lié, c'est l'émergence de ces médias citoyens ou de la manière avec laquelle tout citoyen, pour un peu qu'il soit compétent dans une matière ou dans une autre, ou observateur, peut justement jouer en quelque sorte le rôle de journaliste. Est-ce que, selon vous, ça peut soutenir cette indépendance des médias et éviter la connivence, puisque ce sont justement des citoyens, je vais dire lambda, ou est-ce qu'au contraire, ça décrédibilise le métier de journaliste ? June, tu voulais prendre la parole.
Alors moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de journalistes qui s'étaient inquiétés de l'émergence des blogs, où finalement, voilà, n'importe qui peut écrire des articles sur les sujets qu'il choisit. Et puis d'ailleurs, je crois que c'est amplifié par Facebook et Twitter, parce que voilà, quand quelqu'un voit un article qui lui plaît, hop, il le met sur sa page, et puis tous ses amis le voient. Et voilà, il y a des choses qui peuvent se diffuser très très vite. Alors Moi, je suis plutôt d'accord avec l'inquiétude des journalistes. Je pense que le journalisme, c'est un métier. Je veux dire, vérifier une information, recouper des sources, essayer de prendre un peu de recul quand même, essayer d'analyser avec son expérience, éventuellement son expertise dans un domaine. Je pense que ça, c'est très important. Mais moi, je pense, par contre, là, avec Internet, les blogs, tout ça, que... que le fait que le citoyen interpelle les journalistes, je pense que c'est une très bonne idée. Petit exemple
rapide
comme d'habitude. Là, il y a quelques jours, on nous a annoncé la vente de plein de Rafales en Inde. Et je veux dire, j'ai vraiment eu l'impression qu'on nous prenait pour des imbéciles, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de vente, il y a des énormes pots de vin, des commissions, des rétro-commissions, des trucs. On compte plus ce genre d'exemple avec des énormes sommes d'argent qui prennent des circuits de blanchissement, qui viennent financer illégalement on ne sait pas quoi. Et là, ils posent la question pourquoi on a réussi à avoir ce marché-là. Et puis là, c'est vraiment le monde de oui. Ils disent ah, bah là, ça a été compétitif, les critères étaient meilleurs. Je veux dire, voilà. Et moi, j'adore. J'adorerais pouvoir interpeller les journalistes là-dessus. Pourquoi vous faites comme si...
Et éventuellement les politiques aussi, Dorian.
Je pense que cette question de l'émergence de la presse citoyenne, ou je sais pas, des journaux citoyens, de l'information citoyenne, comme, peu importe comment on l'appelle, est assez importante parce qu'elle nous fait passer d'une verticalité de l'information, c'est-à-dire des chefs de rédaction, des rédactions, vérification des sources, un vrai travail journalistique. Là, je pense comme June, être journaliste c'est un métier, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. On passe à cette structure horizontale où tout le monde peut, distribuer de l'information et dire ce qu'il pense. Si on essaie de réfléchir aux causes de cette émergence et de cet essor, moi, je pense sincèrement que c'est dû à une défiance de plus en plus profonde, accentuée des gens pour la qualité de la presse et de l'information en général. Les gens s'en détournent et considèrent que puisque cette information n'est pas neutre, ou en tout cas n'est pas celle qu'ils attendent, ils sont capables de la faire eux-mêmes et de produire de l'information. Donc ils se font journalistes, ils font des blogs, ils relayent l'information et ils travaillent eux-mêmes.
D'ailleurs, c'est le principe d'un site comme Rue89 qui à la fois a des articles de journalistes, mais qui accepte également les contributions, à condition qu'elles soient relues par les journalistes
D'où la remise en question importante que doivent entreprendre les grands groupes journalistiques face à cette défiance globale des gens pour l'information qu'on leur vend. Quoi.
Alors juste avant Pauline, Nils.
Moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de donner la voix et l'image à ceux qui n'ont pas. L'important, c'est le contrôle citoyen de la presse et de l'information. Donc pour ça, le Front de Gauche propose, premièrement, la convocation de l'Assemblée constituante de la 6e République qui garantira l'indépendance des médias à l'égard du pouvoir politique et des puissances d'argent. Je vous rappelle d'ailleurs que la Fédération de la presse en 1945 écrivait « La presse est libre lorsqu'elle ne dépend ni du pouvoir ni des puissances d'argent ». Deuxièmement, les présidents des chaînes publiques seront nommés par leur conseil d'administration, dans lesquels les représentants des personnels constitueront 50% des membres, pas comme à l'UNESCO, quoi. Et mettre fin à la précarité des journalistes pour permettre une information indépendante, pluraliste et de qualité.
Et c'est le débat qu'on n'aura pas le temps d'avoir sur l'indépendance des médias par rapport au pouvoir politique et cette fameuse, pour prendre un exemple, nomination des présidents des chaînes publiques par le pouvoir exécutif. Pauline, pour conclure.
Oui, rapidement, simplement, je suis d'accord avec Dorian et June à propos du fait que finalement, on ne s'improvise pas journaliste et qu'il y a une vraie formation et qu'il y a des principes et des codes à respecter. Cependant, je ne pense pas que les gens qui font des contributions ou qui montent des blogs ou écrivent sur des réseaux sociaux, Twitter, etc., prétendent à être journalistes. En effet, je pense qu'ils veulent récupérer une voix qu'ils sentent qu'ils ont perdue et ils veulent s'exprimer. Est-ce que derrière, il y a fondamentalement un travail d'analyse ? Parfois oui, parfois non. C'est simplement qu'en réalité, on ne peut pas les mettre sur les mêmes plans. Comme tu le disais très bien, il y a le plan vertical et le plan horizontal. C'est simplement qu'en réalité, ce sont des plans qui se croisent mais ne sont pas les mêmes. Je ne pense pas qu'il soit pertinent de juger l'un ou l'autre de ces plans, premièrement. Deuxièmement, je pense que le fait que les gens justement réagissent à cette perte d'une qualité de l'information qu'ils sentent, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de bon pour la vitalité démocratique de notre pays. C'est quelque chose qui va dans le sens d'une forme de citoyenneté des gens. Et donc, ça me paraît juste.
Et bien voilà, merci à vous quatre pro-chroniqueurs de la table ronde de Transistor d'avoir débattu. Et merci à vous, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur les thèmes que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, surtout avec une campagne qui aura sans doute de multiples rebondissements médiatiques. Alors le débat et la politique continuent évidemment sur Transistor avec l'émission Présidence qui reçoit cette semaine Christian Jacob, député de la 4e circonscription de Seine-et-Marne et président du groupe UMP à l'Assemblée nationale à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Le bon sens en politique. On espère qu'il n'en manquera pas. Pour joindre et correspondre avec la rédaction de Transistor, n'oubliez pas l'adresse email redaction@transistor.fr ainsi que le fil Twitter et le compte Facebook de la radio. Alors bonne continuation à vous à l'écoute de votre radio et à très bientôt. Salut.